Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle joie que d'être dans la présence du Seigneur. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu et je crois que le message que j'ai à partager aujourd'hui, que j'ai déjà partagé à l'extérieur de cette église, mais Dieu m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un cet après-midi. Amen. Je disais, Dieu m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un va être encouragé, non pas avec des paroles d'un homme, non pas avec des fables, mais avec la parole de l'Éternel. Cette parole est sûre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle d'une espérance vivante. Elle n'est pas morte, notre espérance. Nous sommes certains que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Nous sommes certains que ce qu'il déclare, il le fait. Certes, Dieu a besoin d'un partenaire. Ce partenaire, c'est moi et toi. Ce partenaire, c'est nous autres, parce qu'il a tout accompli. J'aime dire, Jésus a dit, tout est accompli. Et il dit également que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, on connaît l'agenda du diable et on connaît l'agenda de Dieu. Le problème maintenant est de savoir quelle sera notre réaction, notre attitude, jour après jour. J'ai réalisé que Dieu a la puissance de nous transformer, mais que le changement réside dans nos décisions. Dieu a le pouvoir de nous emmener loin, mais notre futur réside dans notre routine de tous les jours. La clé, le secret de notre futur, c'est à quoi va ressembler ton lendemain, réside dans ta routine quotidienne. Autrement dit, s'il n'y a rien que l'on change aujourd'hui, il n'y a rien qui va se produire demain. Comment pouvons-nous avoir des résultats différents demain si nous ne prenons pas des décisions aujourd'hui pour changer certaines habitudes? Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose à ajuster. Mais le message que j'ai à t'apporter aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, est un message d'encouragement. Je vais dire à quelqu'un ici, gloire au Seigneur, à quelqu'un ici, que peu importe tes pertes et peu importe où tu te situes par rapport à tes prévisions, Dieu n'est pas perdu. Tu es au centre de son plan et il est comme un GPS. Quand tu te perds, il dit recalcule. Quand tu prends une mauvaise direction, il dit recalcule. Il recalcule lui-même et il te dit à partir de où que tu es, comment te rendre à où que tu devais arriver. Quelqu'un dit amen à cela. Dieu est le meilleur GPS. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand même il y a des travaux dans les rues, il te l'indique. Gloire au Seigneur. Alors, dans le quartier où moi j'habite, il y a eu des changements. Alors, quand tu arrives chez moi, tu ne peux plus sortir avec le GPS. Mais le GPS divin est au courant de tout changement que l'homme peut apporter, que le gouvernement peut apporter, que le système peut apporter. Dis à ton voisin, j'ai le meilleur GPS. Ah, dis-le très. Le premier a toujours un problème d'amour. Regarde le deuxième, dis-lui, j'ai un meilleur GPS. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te partager la parole qui vient du meilleur GPS. Quelqu'un a peut-être fait une fausse route, mais il y a un recalcul qui se fait. Et de là où tu es, tu peux arriver là où tu devrais arriver. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas changé d'avis pour toi. Je ne sais pas si tu as la sensation d'avoir perdu des heures ou des jours dans ta vie, mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas changé d'avis. Non, Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Dans la nouvelle alliance, nous devons comprendre une chose. Tout réside au niveau de nos décisions. Mais Jésus a tout accompli. Et le diable ne changera jamais. Il vient pour t'égorger, pour te tuer et pour voler. Et ça, c'est sa nature. Il ne pourra pas changer. Ne fais pas des compromis avec le diable. N'essaye pas de raisonner la parole de Dieu, de faire des compromis en adoptant la mentalité du monde. Ça viendra contre toi. Tu dois prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Lisons dans Luc chapitre 22. Alléluia. Luc chapitre 22. Je lis au verset 47. L'évangile selon Luc. Certains aiment dire l'évangile selon Saint Luc. Chapitre 22, verset 47. Alors, Luc 22, 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. elle s'approcha de Jésus pour le baiser. C'était un signe pour dire, celui que je veux baiser, c'est lui que vous devez saisir. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frappons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, dit avec moi, mais. Quand il y a mais, ce qui suit est très important. Alléluia. Dis, écoute, peu importe ce que tu es en train de vivre, si à un moment donné de ton histoire, il y a mais Jésus, dis, tout va bien par la suite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut lire dans Jean le même récit? On peut commencer au verset 1, mais je vais gagner le temps. Je commence au verset 4. Jean, chapitre 18, verset 4. Lisez à la maison, vous allez voir que l'évangile de Jean et de Luc, c'est assez spécial. Jean, chapitre 18, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Verset 7, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Est-ce qu'on peut dire « Amen » à la parole de Dieu? Et puis l'histoire continue au verset 10, Simon-Pierre qui avait une épée, là on précise, on ne dit pas seulement un d'entre eux, mais Jean précise, Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus ou Malchus pour ceux qui aiment beaucoup le ch. Malchus, alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez dans la Bible, Malachi ou Malachi, l'un ou l'autre c'est correct. Tu peux dire Malachi ou tu peux dire Malachi, selon la manière que tu préfères. Gloire au Seigneur. Je vois le récit ici qu'on aime beaucoup parler ces chapitres pendant la période de Pâques, parce qu'on voit Gethsémané et l'arrestation de Jésus qui arrive. Mais dans ce récit, il y a quelque chose de particulier qui arrive parce que c'est le moment où on parle de l'arrestation de Jésus. Dans ta Bible ou la mienne, on parle de l'arrestation de Jésus. Je n'aime pas ce terme parce qu'il ne s'agit pas de l'arrestation comme telle. Jésus se livre. Lorsque tu vas quelque part et tu te livres, ce n'est pas comme si on venait t'arrêter ou te capturer. Jésus s'est livré lui-même. Il dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi ici. Il répète une deuxième fois, j'ai dit, qui cherchez-vous? Je vous ai dit que c'est moi, la personne que vous cherchez. Alors, il y a un pauvre homme qui est simplement au service du souverain sacrificateur, Caïphe, qui s'appelle comment? Oh, il n'y a pas de ch parmi nous. Malchus. Alors, cet homme est le serviteur du souverain sacrificateur. Et nous savons, selon la loi et selon l'histoire, que pour être sacrificateur, tu devrais avoir un certain âge. Pour être lévite, tu devrais avoir au moins 30 ans. Voilà pourquoi Jésus n'a pas commencé le ministère à 25 ans, ni à 26 ans, mais il a commencé à 30 ans. Tout ce que Jésus a fait était conforme à la loi. Tout ce que Jésus a fait lorsqu'il venait accomplir la loi, il venait faire des choses qui étaient écrites depuis l'Ancien Testament. Jésus n'a pas commencé le ministère à 15 ans. Pourquoi? Pas parce qu'il manquait l'intelligence, mais c'est parce qu'il comprenait l'importance que pour changer les choses, il y a un certain système qu'on doit comprendre. Gloire au Seigneur. Même pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie, je ne veux pas violer certaines lois universelles et dire non, je m'attends à Dieu, il va agir. Si personnellement, dans ta vie, tu ne fais pas de budget et tu ne serres pas la ceinture, il est difficile qu'il y ait une augmentation, une multiplication, n'est-ce pas, dans les finances. Alors, si on n'honore pas ces lois et qu'on dit, Seigneur, je crois dans le miracle de la multiplication, ça n'aura pas d'effet. Jésus est venu avec un plan qui vient du Père, mais il a respecté un certain système. Alors, il attend 30 ans pour commencer le ministère. Il fallait avoir 30 ans. Malchus était serviteur du souverain sacrificateur et il était un sacrificateur en devenir. Il était comme un homme en stage. Il était comme un homme qui était en train d'étudier, d'apprendre le stage. Il arrivait au terme d'être lui-même sacrificateur. Il était au service du souverain sacrificateur Caïphe à l'époque. Et il y avait plusieurs exigences. Mais je te parle seulement de deux exigences. Il fallait avoir 30 ans. Mais également, il fallait que cette personne, comme il apportera des sacrifices, et les sacrifices doivent être des sacrifices presque parfaits, sans défaut, lui-même, sacrificateur, devrait être sans défaut. Ce n'est pas sans défaut au sens littéral, mais c'est sans défaut de manière générale. Il ne fallait pas que le sacrificateur puisse être aveugle, ou alors borne, ou alors boiteux. Il devait être parfaitement équilibré. Je parle physiquement parlant, psychiquement parlant. Il devait être équilibré et normal, correct. Et ce n'est pas une profession que l'on décide de faire une année avant 30 ans. Tu es destiné à l'être dès le début. Alors toute ta vie, tu sais ce que tu es appelé à devenir. Imaginez-vous, Malchus à 15 ans savait que dans 15 ans, il allait faire ce qu'il devrait faire. Il savait qu'à 16 ans, dans 14 ans, je serai sacrificateur. Il savait qu'à 20 ans, dans 10 ans, je serai sacrificateur. À 22 ans, il comptait 8 ans. À 23 ans, il compte 7 ans. À 25 ans, il compte 5 ans. Je ne sais pas quel âge il a, mais je sais qu'il faut 30. Et à chaque année, il comptait moins un an, moins une année. Alléluia. Et imaginez-vous qu'il arrive une année avant. Il ne reste qu'une seule année. Et finalement, je serai ce que je devrais être. Je suis né pour cela. Et je serai sacrificateur. Il est au service du souverain sacrificateur. Il est fidèle. Il fait ce qu'il a à faire. Il n'a aucun défaut. Il n'y a rien à lui reprocher. Il fait tout ce qu'il doit faire. Mais voilà qu'il est au mauvais endroit. Au mauvais moment. En train d'obéir simplement à son maître. Et pendant qu'il est là, voilà qu'il y a un ambulant, un impulsif disciple de Jésus, du nom de Pierre, qui va prendre une épée et qui va couper l'oreille droite de Malchus. Couper l'oreille droite de Malchus n'est pas un incident, ce n'est pas un accident, non, c'est plus que cela pour Malchus. C'est engloutir le rêve de sa vie. Imaginez-vous qu'il ait 29 ans, je vais aller en exagérant. Il a une année d'être proche de ce qu'il doit faire. Une année de voir son rêve s'accomplir. Et il y a un ambulant disciple de Jésus qui coupe son oreille. Et tout d'un coup, son rêve n'existe plus. Tout d'un coup, la raison pour laquelle il travaillait ne sert plus à rien. Tout d'un coup, tes études ne servent plus à rien. Tout d'un coup, ton doctorat ne sert plus à rien. Tu n'as plus d'espoir. Alléluia. Mais j'aime cette histoire parce que la Bible dit « Mais Jésus, je ne sais pas où tu en es au niveau de tes prévisions. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta foi. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta destinée. Tu dis « Je sais que je m'en vais à tel endroit. » Tu étais certain pendant un moment de te donner de ta vie. Mais tu arrives à un moment où tu dis « Je ne suis plus sûr si je dois y arriver. » Quelqu'un peut dire « Amen » à cela? Reçois ça pour toi, chacun reçoit à sa manière. Alléluia. Tu arrives à un niveau où tu dis je crois que je peux me contenter de ce minimum parce que ce que je visais au départ n'est plus possible. Il y a un incident qui m'est arrivé. Il y a quelque chose qui s'est produit dans ma vie. Je n'y crois plus. Je vous pose une question maintenant. Est-ce que Malchus avait raison de ne plus croire en son rêve? Non, je vous repose la question. Est-ce que Malchus avait raison de ne plus croire en son rêve? Humainement parlant, oui. Parce qu'il était automatiquement disqualifié. Je vais te dire une chose. Il y a des hommes qui t'ont disqualifié. Il y a des personnes qui t'ont disqualifié à cause d'un manquement dans ta vie. Mais ils ne connaissent pas le « mais » Jésus. Ah non, 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 tu n'as pas compris cela. Le monde ne sait pas ce qui vient après « mais » Jésus. Le monde sait que ton oreille droite est emportée. Les gens savent que tu es disqualifié. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dis avec moi, mais Jésus. Ah, mais dis-le très bien. Dis, mais Jésus. Maintenant, ce qui va suivre va dépendre de toi maintenant. Mais Jésus.
rentre en scène. Et la Bible dit qu'il a pris cette oreille. Il a simplement touché. Une touche de Jésus suffit pour que tout revienne à l'ordre. Il touche son oreille. Mais avant qu'il touche, il dit, Jésus commença à parler. Écoute, tout va être rétabli du moment que tout en toi, ta croyance, ta foi, ta pensée, tout en toi se dispose par rapport à ce que Dieu déclare. Si ton oreille est restaurée, ton rêve va être restauré. Si ton oreille peut être restaurée, psaume 81, si mon peuple écoutait ma voix, en un instant, je réduirai ses ennemis au néant. Et le bonheur vous accompagnera pour toujours, déclare la parole de Dieu. Si seulement mon peuple m'écoutait, pas seulement entendre, mais écouter pour l'obéir, si mon peuple m'écoutait, en un instant, je réduirai ses ennemis au néant. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Il y a un handicap qui fait en sorte que tu es disqualifié. Il y a quelque chose qui fait en sorte que tout ce que tu as planifié, les rêves de grandeur, tu as enterré quelque part. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus vient pour restaurer cette chose qui fait en sorte que tu sois disqualifié. Il vient remettre en place ce qui a été emporté par les accidents de la vie. Il vient remettre en place ce qui a été emporté par la colère des hommes, par ton impulsion personnelle. Tu étais au mauvais endroit et au mauvais moment. Qui t'a envoyé là-bas? Quelque part, tu es responsable. Mais j'aime Jésus parce que lui-même dit, ok, je viens subir la conséquence du responsable pour qu'il ne soit plus jamais plus victime de sa vie et qu'il puisse commencer à marcher dans ma grâce et à recevoir les bénéfices de la sanctification et de la justification. Lorsque Jésus prend la place de l'homme, il dit, je vais subir la conséquence du responsable. Je deviens responsable pour que lui maintenant puisse bénéficier de ce que moi je dû recevoir. C'est ça l'échange divin. C'est cela que Jésus a accompli à la croix. C'est ça la puissance de la grâce. Être capable de recevoir ce que tu ne mérites pas. Et parce que tu es en Christ et que le Père te voit en Christ, soudainement, tu mérites cela. Oh, dis amen, quelqu'un. Ce que tu ne méritais pas, tu le mérites maintenant. Ce que tu ne méritais pas hier, tu le mérites maintenant. Que personne ne te disqualifie. En fait, tu es le seul qui te disqualifie en ce moment parce que Jésus a tout accompli. Je ne traîne pas cet après-midi. Je viens encourager quelqu'un pour dire que la même manière que tu étais disqualifié, de la même manière Jésus vient te réqualifier. Alléluia! Tu as été littéralement disqualifié. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Tu as été littéralement handicapé. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Le problème n'est pas ce qui t'arrive. Le problème, c'est l'absence de Jésus. Mais si la Bible dit « Mais Jésus », tu peux commencer à célébrer maintenant. Tu célèbres et puis tu dis « En fait, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe après en fait ?» Tu peux commencer à célébrer déjà. Parce que si Jésus rentre en scène, tout ce qu'il a prévu au départ va s'accomplir. Dès qu'il rentre en scène, il dit « Qu'as-tu fait encore mon fils ?» Ok, recalcule. Deuxième rue, prenez à droite. Après 600 mètres, prenez à gauche. Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, il y a à peine quelques années, nous avions seulement, tu sais quand tu imprimes les données sur Internet, prenez à droite, à gauche, dès que tu te perds là, tu es foutu. Mais les GPS remet à jour à tout moment que tu t'écartes du chemin qu'il a lui-même tracé. Si l'homme peut créer les GPS, qu'en est-il de Dieu qui est le créateur de l'univers? Bien-aimé dans le Seigneur, ne te méprise pas et ne méprise pas le Dieu que tu adores. Je ne sais pas comment les choses sont dures pour toi, les choses traînent pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur. Le GPS divin a déjà fait le recalcul. Seras-tu prêt maintenant à l'écouter à nouveau et à croire à ce qu'il dit? Jésus va dire, lorsqu'il va ressusciter Lazare, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, quand il dit crois seulement, nous pensons qu'il veut dire, en fait, peut-être que tu as douté tout cela, mais juste crois. Ça veut dire beaucoup crois seulement. Crois seulement veut dire crois seulement. Ça veut dire ne doute pas, crois seulement. Ne philosophe pas, crois seulement. Ne cherche pas autre chose, crois seulement. Ça veut dire être obsédé des pensées de la foi. Ça veut dire être inondé, submergé de l'esprit de foi. Ça veut dire que tu n'as pas de place pour une haute théorie. Tu n'as que de la place pour ce que Dieu a dit. Tu es borné. Voilà. Tu es borné de la parole de Dieu. Tu es borné que tu dois réussir. On dit mais. Non. Je suis borné avec une vérité. Crois seulement. Crois seulement veut dire je crois et il n'y a rien d'autre après la foi. Je crois et je crois. Crois seulement. N'ajoute rien. Tout ce qui doit suivre le fait que tu crois, c'est des actions correspondantes. C'est des œuvres qui manquent que tu as la foi. Une action qui correspond à la foi. La foi sans œuvre est morte. La seule chose qui suit, crois seulement, c'est des actions qui prouvent que tu crois seulement. Est-ce que tu comprends cela? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disponible pour toi. Mais pour qu'elle se manifeste, il cherche un homme qui croit seulement. Un homme qui va croire seulement. Sois obsédé, sois borné de la parole de Dieu. Alléluia. Quand la Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ta pensée soit bombardée de positivité et rejette tout négativisme. Tu verras la gloire de Dieu. Plus rien ne sera impossible à toi parce que l'impossibilité devient impossibilité quand tu l'acceptes. Les limitations deviennent limitations quand tu décides que c'est ici ma limitation. Limitation devient limitation quand tu décides que voilà, je n'en peux plus, je ne veux plus, je suis fatigué. Tu ne déclares pas de ta bouche, mais au fond, c'est ça que tu ressens. Et tu peux vivre pendant un temps comme cela. Tu peux passer par une saison comme cela, mais cela doit prendre fin à un moment donné de ta vie parce que Jésus dit, ok, j'ai toléré cela. Maintenant, tu as longtemps de mettre dans cette situation, tourne-toi et avance. Le peuple d'Israël est resté longtemps proche d'une montagne. Ils sont restés là pendant longtemps. Dieu a dit, ok, les vacances, c'est fini maintenant. Les vacances, c'est fini maintenant. Je t'appelle vers la terre promise. Tu ne peux pas faire d'une station de transit un lieu permanent. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est qu'un transit. Non, dis à un autre, ce n'est qu'un transit. Le problème, c'est que nous avons fait du transit, la maison d'habitation. Qui a déjà vu le film Terminal? Qui a déjà vu le film Terminal? Levez la main. Je vous ai vu quand j'étais au cinéma. Voilà. Seulement ça? Ok, qui n'a jamais vu le film Terminal? Wow, cette église est spirituelle. Vraiment, les morts vont ressusciter ici. J'espère que je donne le titre du bon film. En tout cas, anyways. C'est exactement ça. Cet homme-là, qui vient de quelque part en Russie, ou en tout cas, une partie de l'ex-URSS, se retrouve à New York. Il va pour un but. Mais quand il arrive à New York, le type, il a un rêve, il a un but, il a un objectif, il a tout mis là-dedans. Il arrive là, il ne peut pas sortir de l'aéroport parce qu'il n'est pas en règle. Le type a fait de l'aéroport où il devait faire une heure, il en a fait un lieu d'habitation. Il a habité là-bas pendant des jours et des jours et des jours. J'aime beaucoup ce film parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Il était là, il a fait des jours et des jours à New York. Finalement, il a été aimé dans l'aéroport de New York. Vous savez quoi? Il a fini par sortir. Pourquoi? Il était borné à une réalité. Je dois y arriver. Je suis venu avec un but. Pourquoi dois-je rentrer en arrière? Je suis venu avec un objectif. Certes, dans son histoire, il n'avait pas non plus d'argent de poche, donc il n'était pas capable de prendre sa carte de crédit et dire, ok, bon, billet retour directement. Non, c'est différent. Mais n'empêche, il était comme un enfant qui dit, je viens pour ceci, je ne comprends pas pourquoi vous voulez me... Non. Sois comme un enfant qui croit en Dieu. Sois comme une personne bornée qui dit, ok, tout ce que je vois qui est contraire aux promesses de Dieu n'est pas ce qui est prévu pour moi. Vous est-il déjà arrivé d'aller vers une machine de café? Vous mettez votre tasse et vous dites, oh, j'ai appuyé le bouton là. Pas sûr du d'orange. Ah, je doute. C'est dur. Tu enlèves la tasse. Tu dis, non, je vais réessayer encore. Est-ce que c'est du café qui va sortir? Et là, tu hésites, puis tu appuies. Wouh! Yes! C'est du café. Mon jour de chance. Non, non. C'est naturel que le café sorte d'une machine à café. S'il te plaît, regarde ton voisin, dis-lui, c'est naturel que tu ailles de gloire en gloire. Regarde un autre voisin, dis-lui, c'est naturel que tu réussisses tout le temps. Cela veut dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas naturel qui arrive, tu vas dire, what? Comment est-ce possible? Tu dois être étonné. Soyons étonnés, dis, attends, c'est pas possible. Ma vie ne reflète pas qui je suis pour de vrai. Gloire au Seigneur. En fait, tout commence par comment tu te vois. Comment tu te vois? Comment tu te vois pour de vrai? Comment vois-tu une machine de café? Tu vois une machine de café comme une machine de café. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de philosophie. Tu vas philosopher autre chose. Tu es enfant de Dieu. Ok? Christ en toi, l'espérance et la perdition. Oh, sorry, excusez-moi. Christ en nous, l'espérance du peut-être. Christ en toi, l'espérance de. Mais je mettais le micro ici. Christ en toi, l'espérance de. Ah, gloire à Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire que Christ en toi, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu as une espérance pour plus. Tu as une espérance pour l'honneur. La gloire inclut l'honneur. Dieu t'a donné une couronne invisible d'honneur et de gloire. Voilà pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, nous mettons nos couronnes à terre. C'est quelle couronne que tu penses? Quelle couronne? C'est cette couronne d'honneur et de gloire que Dieu a mis sur chaque enfant de Dieu. Nous l'avons cette couronne. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Il y a une onction royale sur chaque enfant de Dieu. Ça, on doit revenir là-dessus, c'est vraiment important. Il y a une onction royale sur chaque enfant de Dieu. Tu as une couronne d'honneur et de gloire qui est sur toi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu mets cette couronne à terre pour l'adorer, lui semble digne. Mais quand tu vas dans le monde, tu vas avec cette couronne d'honneur et de gloire, avec autorité. Tu proclames le règne de Dieu. Tu proclames l'autorité en Christ. Alléluia. Nous avons cette couronne-là. Cela veut dire que tu es une machine à succès. Si j'appuie le bouton et il n'y a pas de succès, il y a un problème. Tu es une machine à réussite. Quand j'appuie le bouton, je ne m'attends pas à autre chose. Je m'attends à ce que tu dois produire. Gloire au Seigneur. Même si ton oreille a été coupée. Même si il y a un membre qui a été affecté, le Seigneur vient remettre ce qui t'a disqualifié. Cela a été emporté. Jésus vient remettre cela en place. Si tu le crois, lève-toi dans la présence de Dieu. On va prier ensemble cet après-midi. Je ne peux pas ajouter au message que j'ai à cœur. That's it, that's all. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on peut dire de la parole de Dieu, c'est oui et amen. Gloire au Seigneur. Il est fidèle. Crois-tu seulement? Ou tu crois et tu doutes? Ou tu crois et tu penses à autre chose? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Les choses sont dures dans ta vie. Crois seulement, crois seulement. Mais autour de toi, je vous ai dit ici, Abraham a eu l'une des plus grandes épreuves. Abraham n'a pas d'histoire sur quoi se baser. Abraham ne peut pas dire, il y a un homme 10 ans passé qui s'appelle Bernard, qui a cru en Dieu et Dieu a ressuscité. Abraham ne peut pas dire, j'ai lu dans la Bible que Jésus est allé quelque part, il a touché une femme stérile et l'a mis au monde. Abraham n'a pas de référence. Mais Abraham a cru en Dieu. Mais comment il a cru en Dieu? Comment est-il arrivé à voir la promesse s'accomplir? Dieu a compris qu'il fallait une isolation. Isole-toi dans la vérité. Isole-toi dans la parole. Isole-toi dans les promesses. Isole-toi dans une pièce où le mur, les 4 murs, le toit et le sol est rempli des promesses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, regarde par terre, compte le sable. Il essaie, il n'arrive pas. Il dit, c'est la quantité de tes descendants. Il dit, regarde vers le ciel. Il regarde vers le ciel et il voit les étoiles. Il dit, c'est le nombre de tes descendants. Il dit, regarde à gauche, à droite, à l'orient, au nord. Regarde l'étendue. Jusqu'où tes yeux vont aller, je te donne ce terrain en possession. Maintenant, dites-moi, c'est où qu'Abraham allait regarder pour douter? Quand Abraham regarde le sol, il voit la promesse. Quand Abraham regarde le ciel, il voit la promesse. Quand Abraham regarde autour, il voit la promesse. Fais en sorte que quand tu sors de chez toi, tu vois la promesse. Quand tu rentres chez toi, tu vois la promesse. Environne-toi jusqu'à ce que tu sois borné. Jusqu'à ce qu'en toi n'habite que la réalité de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jusqu'à ce qu'en toi n'habite qu'une seule réalité, ce que Dieu déclare. Et pour toi, tu trouveras naturel d'accomplir les buts. Tu trouveras naturel de grandir. Tu trouveras naturel d'aller de l'avant. Tu trouveras naturel que Dieu intervienne dans ta vie. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dis non, c'est pas normal. Recalcule, recalcule. C'est pas normal. Recalcule. Parce que je dois arriver à destination. Avec le GPS, tu dois arriver à destination. Dis amen, quelqu'un. Alléluia. Qui a déjà pris un avion ici? Et cet avion s'est trompé. Qui? Ben, c'est sûr que... Quand tu prends un avion pour Amsterdam, puis on arrive, et le pilote dit, mesdames et messieurs, veuillez m'excuser, vraiment, excusez-moi. Nous ne sommes pas à Amsterdam. Je me suis trompé, nous sommes à Madrid. Pourquoi? Parce que le pilote là, pendant qu'il pilote, il ne fait pas les choses selon ses émotions. Tout est calculé, il suit. C'est mathématique, c'est un GPS. Parfois même, ils sont dedans, il y a un pilotage automatique. C'est clair. Le problème, c'est que nous sommes impulsifs, nous sommes émotionnels. Découragés, encouragés, j'ai mal, je n'ai plus mal, j'ai envie, j'ai plus envie, j'en peux plus, j'en ai marre. C'est ça le problème. Mais si on peut dire, je conduis, oui, je suis fatigué, mais le GPS dit à droite. Oui, j'ai soif, mais le GPS dit à droite. Je peux m'arrêter, aller au Tim Hortons, prendre ma tasse de café. Mais quand je rentre dans la voiture, il ne change pas d'avis. Il a dit à droite. Tu dois aller à droite. Oh! Dis amen, quelqu'un. Je viens t'encourager, te dire que tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Lève nos mains dans la présence du Seigneur.